Elles s'appellent Fatima, Marie, Rokaya, Nadia. Elles ont été harcelées dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Elles s'appellent Laura, Marine, Leila. Elles ont été harcelées sexuellement au travail. Elles s'appellent Millet, Caroline, Lauriane. Elles ont été violées par un proche, certaines lorsqu'elles étaient enfants. Elles s'appelaient Amélia, Raouia, Magali, Yasmine, Radia. Elles ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Selon l'Organisation des Nations Unies, une femme sur trois subira des violences au cours de sa vie. En France, chaque jour, plus de 250 femmes sont violées. Une femme sur trois a déjà été harcelée ou agressée sexuellement au travail. 16% de la population a été victime de violences sexuelles pendant son enfance. Voilà les premiers mots d'une tribune portée par le collectif Nous Toutes et signée par 250 personnalités pour soutenir cette marche contre les violences faites aux femmes qui aura lieu aujourd'hui dans toute la France à la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Bonjour Manon Garcia.
Bonjour.
Vous êtes notre invitée aujourd'hui. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'Université de Chicago, vous êtes spécialiste de la philosophie féministe, de philosophie féministe plus exactement. Vous avez publié en cette rentrée d'automne 2018 « On ne n'est pas soumis ». On le devient aux éditions Climat et vous avez signé cette tribune. Pour quelle raison ?
Parce que je pense en effet que le problème, un des problèmes les plus urgents aujourd'hui, c'est cette question des violences sexuelles et sexistes et que on peut lutter comme on voudra contre la domination masculine. C'est quand même sa manifestation la plus problématique, la plus violente, la plus voilà qu'il faut essayer de résoudre avec le plus d'urgence. Donc ça me semble être le premier combat d'une certaine manière.
C'est une tribune puis c'est une marche. Qu'est-ce qu'on espère quand on va marcher ?
Je pense que ce qu'on espère, c'est qu'on espère une visibilité publique de ce problème-là. Après, c'est vrai que en termes de calendrier, on n'a pas eu de chance parce que ça fait des mois que ce collectif organise cette marche. Et puis là, bon, bah, y a les gilets jaunes, il y a la marche des policiers. Ça tombe assez mal d'une certaine manière.
Ça peut se croiser, hein ?
Oui, ça peut tout à fait se croiser.
Mais pas que dans le mauvais sens, on a tendance à faire peur, mais pas que dans le mauvais sens.
Non, bien sûr, mais... Je pense que quand même, ce qui était l'idée de cette marche, c'était de dire, on va, c'est symbolique, on va être nombreux dehors pour dire que maintenant ça suffit. Je pense que c'est évidemment influencé par la Women's March à Washington et cette espèce d'idée de dire, ça a un impact d'aller physiquement tous et toutes dehors pour dire voilà, maintenant ça suffit.
Avec cette revendication principale qui est passée à l'acte, c'est-à-dire il y a eu une prise de conscience provoquée par le mouvement MeToo, on est un an après, maintenant il faut que les choses changent effectivement.
Voilà, je pense que c'est un appel au pouvoir politique aussi pour que les choses changent, pour que cet engagement du gouvernement soit encore plus matérialisé dans les faits, dans la loi. Je pense qu'en plus là, l'actualité a été très déprimante pour les femmes qui se battent, enfin pour les gens en général, qui se battent contre les violences sexuelles et sexistes.
Quelle actualité ?
L'acquittement de Georges Tron, je pense que ça a été très difficile. Il y a une espèce de série là entre la remise en liberté de Tariq Ramadan, sous condition de Tariq Ramadan, l'acquittement de Georges Tron, les 4 mois avec sursis d'Ibrahim Malouf. Et là, le cas en Normandie là de cet homme qui a été acquitté pour viol et son avocat avait dit que on pouvait pas considérer qu'il y avait une intention de violer en raison du fait que cet homme n'avait pas les codes culturels qui lui permettaient de comprendre que c'était un viol. Bon, c'est vrai que on a l'impression que chaque jour apporte une nouvelle impunité, une nouvelle remise en cause de la parole. Des femmes qui portent plainte, enfin c'est
Vous pensez que ça fait mal au mouvement féministe ? Que ça donne des billes aux antiféministes ?
Je sais pas si ça donne des billes aux antiféministes. Je pense pas que ça fait mal au mouvement féministe, mais je pense que ça fait mal aux femmes et aux féministes de voir ça chaque jour. C'est quand même très très déprimant. Je pense que au lendemain de MeToo, on a tout été assez optimiste avec l'idée que les choses allaient changer. Moi, je vis la moitié, enfin une grande partie de ma vie aux États-Unis. C'est vrai que le fait que le juge Kavanaugh ait été accepté comme juge à la Cour suprême a aussi été une vraie défaite pour les femmes et pour les féministes. Si on ajoute à ça l'élection de Donald Trump, évidemment, mais
ou de Jair Bolsonaro.
Bolsonaro au Brésil. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça a été vraiment un coup derrière la nuque très dur la confirmation de Kavanaugh, parce que en fait, même les républicains n'ont pas remis en cause ce que Christine Blasey Ford disait, mais ce que ça a quand même envoyé comme message, c'était de dire...
Qui accusait le juge Kavanaugh,
voilà,
d'agression sexuelle.
Qui était une des accusatrices du juge Kavanaugh et qui a été entendue par la commission de confirmation du Congrès américain. Et en fait, ce qui était difficile, c'est que elle accusait Kavanaugh de l'avoir molestée sexuellement quand elle était adolescente. Et ce qui est difficile, c'est qu'évidemment, c'était pas un procès judiciaire dont il s'agissait pour Kavanaugh. C'était juste la question de savoir si, en ayant fait ça, on pouvait accéder au poste le plus important qui soit aux États-Unis, parce que c'est plus prestigieux d'être juge à la Cour suprême que d'être président des États-Unis. On est juge à la Cour suprême à vie. C'est vraiment le poste où on est le plus puissant aux États-Unis, finalement, en étant juge à la Cour suprême. Et le message qu'a donné sa confirmation, ça a été de dire « Ne vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez, ça peut s'arranger, quoi. » Enfin, en tout cas, c'est pas très grave d'avoir molesté des femmes dans son adolescence. Comme disent les Américains, « Boys will be boys », donc les garçons seront toujours des garçons. Voilà, et donc ça montre, moi je trouvais ça très intéressant, même en France, on a cette adhésion au mythe d'une sexualité masculine pulsionnelle, difficile à contrôler, et que, voilà, les chiffres montrent que 2/3 des Français pensent que c'est vrai que les hommes ne peuvent pas se contrôler, alors que les femmes ont une sexualité passive et tout à fait contrôlable. Donc voilà, je pense que c'est des éléments qui posent problème et qui... Voilà, sont pas...
Vous pensez qu'il y a un retard, une spécificité française? Je vous pose cette question en ayant sous les yeux la tribune de l'ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, dans le journal Libération hier, qui commence sa tribune en disant, d'ailleurs qu'elle va manifester avec nous toutes, en disant « Alors que les féministes espagnoles sont capables d'organiser une grève générale pour l'égalité salariale et des manifestations massives contre l'impunité d'un groupe de violeurs, en France, elles peinent à dépasser leur noyau militant historique. Alors qu'après MeToo, 70 000 Suédoises sont sorties du silence et de l'anonymat pour dénoncer la culture sexiste dans 69 secteurs d'activité, en France, 100 femmes ont pris la plume pour revendiquer la liberté d'importuner et les beaux esprits encouragés et rassurés ont intimé aux femmes de se taire en les accusant de nous conduire vers une société de la délation. » Il y a une spécificité française en la matière ?
Ah oui, pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est vrai que... Alors, on a mis ça au compte de la séduction à la française, etc.
La galanterie.
Oui, de la galanterie. Enfin, moi, comme je dis souvent, mon expérience de la galanterie à la française, c'est l'expérience du harcèlement sexuel, quand même. C'est-à-dire que moi, par exemple, maintenant que je vis aux États-Unis, je découvre ce plaisir de marcher dans la rue sans risquer de se prendre une main aux fesses. La rue aux États-Unis est beaucoup moins hostile aux femmes qu'en France. Dans le monde professionnel, les hommes se comportent beaucoup mieux, voire très bien.
Mais vous ne faites pas une frontière, Manon Garcia, entre la galanterie française et le harcèlement de rue ?
Ce que je veux dire, c'est que on parle toujours de la galanterie à la française et que, en réalité, ce qui isole la France par rapport aux autres pays et par rapport, par exemple, aux États-Unis, c'est le harcèlement sexuel. Je ne dis pas que la galanterie à la française est du harcèlement sexuel, mais ce que je dis, c'est que c'est pas vrai que quand on arrive en France, on se dit « Ah, comme les hommes sont courtois et galants !» On se dit « Ah, il faut vraiment que je fasse attention à dans quelle rue je vais passer et comment ça va se passer, quelles chaussures je porte et est-ce que je vais pouvoir partir vite? Est-ce que je devrais traverser pour pas me retrouver face à ces hommes-là dans la rue? Est-ce que je vais me faire...
Mais toutes les femmes ne pensent pas comme ça. Tous les hommes ne pensent pas d'ailleurs comme ça. Certains hommes et certaines femmes, alors je pense à certaines personnalités qui écrivent et qui le disent publiquement, comme Nancy Houston, je pense à certains penseurs comme Marcel Gauchet, qui disent que contrairement à vous, d'ailleurs, le patriarcat, la domination masculine, qui est ce que vous avez employé tout à l'heure comme mot, est révolue, qui analyse la fragilité, ce qu'ils appellent la fragilité masculine, comme le fruit de l'avènement de cette société égalitaire où la différence des sexes est brouillée. Gaucher parle d'immaturité masculine, Nancy Houston parle de virilité vrillée, et pas du tout de la peur qui porterait les femmes dans la rue en se disant « il ne faut pas que je traverse parce qu'il y a un groupe d'hommes en face », etc. Manon Garcia, enfin, qu'est-ce qu'on répond à ça?
Je réponds, 225 000 femmes se font violer chaque année en France, sont violées par des hommes chaque année en France. Il me semble que 225 000, ça veut dire une femme toutes les 6 minutes. Si Marcel Gauchet et Nancy Houston veulent dire que la virilité est en crise ou je sais pas quoi, tant mieux pour eux. Mais enfin, la réalité, c'est quand même ces chiffres-là. Toutes les 6 minutes, une femme est violée. 123 femmes sont tuées chaque année par leur partenaire. En moyenne, 94 000 femmes par an sont victimes de viol ou de tentatives de viol. 91% de ces cas sont des agressions par des personnes connues, 45% par des conjoints ou des ex-conjoints.
Manon Garcia, vous êtes philosophe. C'est une question quasi philosophique, je pense, que je vais vous poser. Comment expliquer pourquoi les femmes sont-elles statistiquement plus harcelées, battues, violées, tuées par les hommes que l'inverse ?
Parce que les hommes sont plus violents que les femmes. Je sais pas. C'est une question qui est difficile parce que elle.
Vous travaillez à ce terme de soumission. Vous réfléchissez à cette question en posant, et c'est ce que vous faites dans votre ouvrage issu de votre thèse. On ne naît pas soumise, on le devient. Est-ce que ce terme de soumission peut être une réponse à la question ?
Eh bien, je ne pense pas. Parce que justement, en fait, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que on peut parler de soumission des femmes, et c'est un concept extrêmement intéressant pour parler de plein de phénomènes, mais que les violences sexistes et sexuelles ne doivent pas être mises au compte d'une soumission des femmes, que ça, c'est vraiment une rhétorique, à mon sens, antiféministe et sexiste, de dire, en fait, les femmes sont violées. C'est pour ça qu'on dit souvent les femmes se font violer. Mais en fait, les femmes sont violées par des hommes, et c'est pas parce qu'elles se soumettent. C'est plutôt parce qu'elles ont peur, parce que les hommes sont violents, parce que les hommes...
Mais vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de pulsion sexuelle naturelle chez l'homme. Vous dites que les hommes sont plus violents par nature ou par culture ?
Ah, absolument par culture. Moi, je pense pas du tout. Alors, on peut. Il y a des gens qui font l'hypothèse que la testostérone rendrait violent, etc. Mais on vit quand même dans des cultures qui nous amènent à vraiment lutter contre nos impulsions naturelles, etc. Je pense que la violence des hommes est quelque chose de purement culturel, mais que c'est quelque chose qui est validé socialement et qu'on donne des excuses aux hommes violents. Les femmes, la violence des femmes est très stigmatisée, alors que la violence des hommes, on se dit, voilà, bon, bah, c'est des hommes, ils sont comme ça, ils peuvent pas s'empêcher. Et je veux dire, on voit ça dans les cours de récréation, c'est très clair. Les petits garçons sont, voilà, on se dit, bah, voilà, ils se bastonnent, c'est ça, être un petit garçon. Et quand les filles se battent, alors là, elles passent pour des harpies, mais c'est vraiment culturellement construit, tout ça.
Et vous disiez tout à l'heure, Manon Garcia, en répondant à la question de Sophie Delpont dans le journal, que vous voyiez une vraie différence, un vrai changement dans les plus jeunes générations. Vous enseignez, hein, donc vous envoyez aussi beaucoup. Les moins de 20 ans, vous avez dit, qu'est-ce que vous voyez chez eux de changer ?
Alors, moi, ce qui m'intrigue...
C'est pas une généralité, hein, c'est pas une enquête sociologique.
Alors, ce qui est intéressant, et il y a des chiffres là-dessus, c'est que chez les moins de 20 ans, il y a un énorme gap entre les garçons et les filles. Mais où les filles sont d'une très grande modernité, mais parce qu'elles s'éduquent sur les réseaux sociaux, sur il y a plein de groupes féministes pour les petites jeunes, elles regardent beaucoup des vidéos sur YouTube, etc.
Et elles sont pas toutes vers l'émancipation féminine. Hein.
Non, mais elles regardent beaucoup de choses sur l'émancipation féminine. Et en fait, elles ont C'était très amusant. Aux États-Unis, ça s'est manifesté avec l'affaire Aziz Ansari, pour la faire rapidement pour les Français qui sont pas au courant. Il y avait ce comique qui était vu vraiment comme un allié des femmes, etc. Et une jeune femme a raconté qu'elle avait passé une soirée avec lui et qu'il l'avait vraiment forcé sexuellement. Et ce qui était très intéressant, c'est que les femmes de plus de 30 ans avaient tendance à se dire, ce que cette jeune femme décrit, c'est juste une mauvaise soirée avec un mec lourd. Les femmes de moins de 25 ans disaient, non, mais ça, c'est le patriarcat, plus jamais, il faut être dans des rapports égalitaires, heureux. Moi, je suis frappée des jeunes femmes qui sont très en faveur de cette idée que seulement, il n'y a que oui qui veuille dire oui, et que vraiment considérer qu'il faut dire non pour dire non, c'est vraiment une drôle d'idée, qu'il faut que les rapports sexuels soient heureux, égalitaires. C'est assez encourageant, je dois dire.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Bombay.
Notre invitée, Manon Garcia, philosophe, auteur ou autrice de « On ne naît pas femme ». Non, d'ailleurs, justement. Oui, effectivement, Simone de Beauvoir vous inspire beaucoup. « On ne naît pas soumise, on le devient » aux éditions Flammarion dans la collection Climat. Cette question de la soumission des femmes, vous dites d'emblée, c'est un impensé du féminisme. Et pourtant, c'est un phénomène ordinaire.
Oui, voilà, mais parce que je pense que la question de la soumission des femmes a beaucoup été utilisée par les antiféministes et par tous les gens qui voulaient s'assurer que les femmes restent bien à la maison, qu'il s'agisse des théologiens, des philosophes, de plein de gens, et que par conséquent, on a eu tendance à dire, si on parle de soumission féminine, c'est qu'on présuppose que les femmes sont naturellement soumises. Moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que en fait, la soumission féminine est un phénomène très ordinaire qui passe par...
Ça commence où ?
Mais c'est ça qui est difficile, mais il me semble que s'affamer pour rentrer dans une taille 36, instagrammer des lunchbox parfaitement faites pour ses enfants, prendre du plaisir à repasser les chemises de son mari, ça prend plein de formes. La soumission féminine, c'est pas simplement être une femme au foyer ou une femme qui porte le voile. Moi, on m'a beaucoup dit vous travaillez sur la soumission féminine, ça doit être sur les femmes voilées. Non, je pense que on peut porter le voile sans être soumise et être soumise sans porter le voile. Je pense que le botox, par exemple, est beaucoup plus une forme de soumission que le port du voile. Mais c'est vrai que les féministes ont été très soucieuses de pas trop parler de la soumission féminine parce que ça semble dire que en fait, les femmes sont responsables de ce qui leur arrive. Et moi, j'essaye de parler de la soumission féminine tout en montrant que ça veut pas dire que les femmes sont coupables ou qu'elles sont responsables ou que c'est pas une façon d'exonérer les hommes de leur responsabilité dans la domination masculine.
Mais qu'elles sont complices.
Mais en fait, toute forme de domination sociale qui fonctionne bien suscite des complicités. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de voir comment fonctionnent ces complicités parce que c'est émancipateur, en fait. Une fois qu'on comprend comment on se soumet, pourquoi on se soumet, qu'on comprend... Moi, je parle de quelque chose dont on parle très peu, à mon avis, qui est le plaisir que les femmes prennent à leur soumission.
Le plaisir de la soumission, oui, vous dites que c'est très ambigu, c'est très complexe, cette notion. J'aimerais bien que vous me disiez ça, plaisir de la soumission.
Parce que, évidemment, on peut penser... moi j'aime bien cet exemple des femmes qui peuvent prendre du plaisir à repasser la chemise de leur compagnon ou à sortir le soir et être super sexy et avoir l'air de parfaits objets sexuels, etc. et prendre du plaisir à ça. Mais il faut comprendre que d'un côté on peut prendre du plaisir à quelque chose qui sur le long terme nous nuit, par exemple. Et je pense que c'est le cas de l'amour féminin comme démission devant l'homme aimé à qui on donne tout, on dit voilà, tu es le sens de ma vie, etc. Faire ça, ça peut donner énormément de plaisir tout en mettant les femmes dans une situation de très grande vulnérabilité quand on voit toutes ces femmes qui abandonnent leur travail ou leurs ambitions pour l'homme qu'elles aiment. Et au bout de 20 ans, l'homme s'en va et puis elles ont pas de salaire, pas de retraite. Elles se retrouvent toutes seules à élever leurs enfants. C'est quand même ça la réalité de la vie des femmes, souvent. Et donc, à mon avis, il faut pouvoir tenir ensemble les plaisirs pris à la soumission et la vulnérabilité que cette soumission crée.
Vous parliez tout à l'heure, Manon Garcia, de Donald Trump, des États-Unis, où vous vivez une grande partie de l'année. Le fait que 53% des femmes blanches américaines ont voté pour Donald Trump, est-ce que c'est un exemple de soumission volontaire ?
Oui, moi je trouve que c'est cette statistique est vraiment bien expliquée par ce concept de soumission, parce que je pense qu'en fait ce qui se joue pour ces femmes-là, alors même que c'est très clair que Trump va contre leurs intérêts, donc elles votent vraiment contre leurs intérêts, et c'est pas que dans l'élection pour Trump, à chaque fois qu'il y a des nouvelles élections, les femmes blanches en ce moment votent pour des hommes misogynes, globalement. Et en fait, une façon d'expliquer ça, c'est qu'en fait, ces femmes qui votent pour Trump sont mariées avec des hommes qui votent pour Trump, sont les filles, les sœurs, les mères d'hommes qui votent pour Trump et qui votent pour Trump parce qu'ils se sentent mis en danger. Et que ces femmes-là, en fait, elles sont plus solidaires avec leurs hommes qu'avec les autres femmes et qu'en fait avec elles-mêmes. Et ça, je pense que c'est vraiment une des manifestations de la soumission féminine, que les femmes ont du mal à se concevoir comme un groupe social avec des intérêts propres, etc. Et qu'avant tout, elles aiment les hommes avec qui elles vivent et qu'elles ont plus à cœur de protéger les hommes avec qui elles vivent que de se protéger elles-mêmes.
Quel est le rapport, Manon Garcia, que vous établissez entre la soumission et le consentement sur lequel Geneviève Fraisse, notamment, a beaucoup réfléchi ?
Alors, en fait, ma thèse s'appelle « Consentir à sa soumission ».
D'ailleurs, vous dites que le grand ennemi d'une entente égalitaire entre les sexes, c'est le consentement des femmes à leur propre soumission.
Voilà. Mais moi, dans ce contexte-là, je prends le terme de consentement au sens quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux montrer, c'est que c'est pas que les femmes choisissent leur soumission, c'est que la soumission est prescrite aux femmes. En gros, c'est le programme par défaut quand on est
femme. Elles sont conditionnées.
Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on nous propose comme la bonne féminité, etc. C'est la soumission. Et que, en fait, donc c'est pas que les femmes la choisissent, c'est pas qu'elles ont le choix entre la liberté et la soumission comme on aurait le choix entre du thé et du café, c'est qu'elles sont préparées pour être soumises. Et que la plupart du temps, elles consentent à cette soumission, elles n'ont pas...
Le savoir, vous voulez dire.
Voilà, ou en tout cas qu'elles n'ont que ne pas se soumettre, c'est pas choisir la liberté comme ça, c'est décider d'aller contre tout ce pourquoi on a été programmé, et donc de vraiment se révolter contre un état de choses, et que ça demande énormément de force, d'énergie, de courage, alors même qu'on éduque les petites filles à ne pas avoir de force, d'énergie et de courage. Donc c'est vraiment très difficile, et pour moi, je pense que c'est important de dire ça, parce que ça permet aux femmes de comprendre pourquoi elles se sentent si coupables. Parce qu'on dit, une histoire qui m'amuse, c'est que je connais une éditrice du presse universitaire américaine, et elle dit que 95% des emails qu'elle reçoit sont écrits par des hommes qui lui disent, il faut absolument que vous publiez mon livre, ça va être un chef-d'œuvre, et ils écrivent 5 ou 6 lignes de description de leur livre qui va être un chef-d'œuvre absolu. Et que 5% des emails qu'elle reçoit sont écrits par des femmes qui disent « Bonjour, alors voilà, je suis vraiment désolée de vous déranger, je sais que vous êtes très occupée, que vous devez recevoir énormément d'emails, mais je vous envoie 30 pages de description du livre que je voudrais publier chez vous. » Et donc elles envoient
mais
un dossier super bien, super bien construit, etc. Et que, en fait, les femmes après se disent « Mais c'est moi qui suis nulle de pas envoyer plus de mails. » Alors qu'en fait, rien n'est fait pour qu'elles aient cette confiance en elles-là.
Oui, c'est la question de la légitimité dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire, Manon Garcia, que le travail, et d'ailleurs les outils philosophiques sans doute apportent une grande aide de ce point de vue-là, mais que le travail passe aussi par les femmes, voire surtout par les femmes ? L'éducation, c'est l'éducation des petits garçons et des petites filles.
Ah, c'est sûr que je pense qu'il faut, évidemment, parce qu'on parlait tout à l'heure des violences sexistes et sexuelles, là je pense que c'est un problème d'éducation des petits garçons, mais sur la soumission c'est un problème d'éducation des petites filles, de pas faire des éducations genrées où les petites filles doivent se penser comme la belle au bois dormant plutôt que comme un aventurier ou un cosmonaute. Je pense que il faut vraiment voir comme on construit les petites filles à être des êtres passives qui vont attendre le prince charmant globalement et penser que c'est les hommes qui vont donner du sens à leur vie, et plutôt voilà leur apprendre, les éduquer comme on éduque les petits garçons à être
des
aventurières.
C'est ça.